Le journal Mireille Boukassa.
9 morts, 22 disparus, bilan d'un accident hier jeudi sur le lac Kivu. Le bateau Yesuni Djibou appartenant à un particulier est entré en collision avec un bus. Une nouvelle vague d'expulsés congolais de l'Angola arrivée mercredi dernier à Kamako, au Kasaï occidental. Selon cette vingtaine d'expulsés, 2000 autres Congolais sont aux arrêts en Angola et attendent d'être chassés de ce pays. Plus de 7000 enfants vont être infectés du VIH-SIDA cette année au Kasaï oriental. La cause, selon ce statistique du PNLS, les femmes enceintes dépistées séropositives ne reviennent plus auprès de leur structure médicale pour suivre des soins. Mesdames, Messieurs, bonsoir. 9 morts, 22 disparus. C'est le bilan définitif selon des sources officielles d'un accident qui s'est produit hier jeudi soir au large de l'île d'Idjui sur le lac Kivu. Le bateau Yesuni Djibou appartenant à un particulier est entré en collision avec un bot. Une centaine de personnes ont été repêchées. Le bot, lui, a coulé. La MONUC Bukavu y a dépêché deux canots rapides pour faciliter la poursuite des recherches. Le major Emmanuel Gamani, commandant de la force navale de Bukavu, explique les causes de l'accident. Il est au téléphone avec Dieudonné Bagalwa.
Le code de navigation, le bâtiment qui navigue la nuit, en principe, ça doit avoir le feu de navigation et le feu de position. Cela permet à tout navigant, à tout commandant, de situer la longueur et la position du bâtiment qui navigue. Cela ne se fait pas avec les bottes. Et le constat aussi pour le bateau Yesuni Djibou, ce bateau aussi n'a pas de feu de navigation, n'a pas fait de position. Je pense que ça doit être cela. La vue n'était pas facile. C'est comme ça qu'il y a eu cette collision. Il n'était pas chargé. Vous savez, les bottes d'habitude sont imaginez-vous, un bot qui doit vous prendre plus de 200 hommes. Vraiment, c'est sûr, c'est 200 hommes, plus on va carguer, parler de bananes, de sacs de concettes de manioc et autre chose.
Le Front de résistance patriotique de l'Ituri, FRPI, n'a pas confirmé sa participation à la phase 3 du processus de désarmement, démobilisation et réinsertion DDR. Ce processus a été lancé officiellement hier jeudi à Bounia par la vice-ministre de la Défense en l'absence du colonel Matata Banaloki, alias Cobra Matata, leader du FRPI. Une mission chargée d'aller le chercher à Aveba hier jeudi pour le ramener à Bounia à rebrousser chemin. Entre-temps, l'état-major des FRDC en Ituri s'engage à poursuivre des négociations avec ce mouvement armé. Sadala Chabani.
Les commerçants de Boutembo, au cours de leur réunion avec les comités de sécurité urbain, posaient 4 préalables avant de procéder à l'inhumation de leurs collègues. Selon le président de la FEC, Boutembo Loubert, au monsieur Polycarpe Indivito, les commerçants exigent un procès équitable. Ils demandent que les autorités pénitentiaires laissent les accusés à prison jusqu'à leur comparution devant les juges, que le procès se tienne à Boutembo, le lieu du crime, et que la sécurité de la population et de ses biens soit renforcée. La FEC a obtenu gain de cause. Les autorités ont promis de nouvelles stratégies pour enrayer le banditisme qui sévit en ville de Boutembo et ses périphéries, précise le président du syndicat des commerçants. À 16h40, l'homme d'affaires Kambale Kisoni a été conduit à sa dernière demeure à Moussienene, à 17 km au sud de Boutembo, par une foule immense de gens venus des 4 coins du secteur de Boutembo-Béni. Etienne Mouindo, Boutembo, Radio Okapi.
Vous venez là de suivre un reportage sur la journée de deuil à Boutembo à l'occasion des obsèques du patron de la société Congocom, Dr Kambale Kisoni. Cet opérateur économique, l'un des plus importants de la région, a été abattu hier dans son bureau par des bandits armés. Et aujourd'hui, comme vous l'avez suivi, toutes les activités étaient paralysées dans la ville de Boutembo. Le Front des résistances patriotiques de l'Ituri, FRPI, n'a pas confirmé sa participation à la phase 3 du processus des DDR. Ce processus a été lancé officiellement hier jeudi à Bounia par la vice-ministre de la Défense en l'absence du colonel Matata Banaloki, alias Cobra Matata, leader du FRPI. Une mission chargée d'aller le chercher à Aveba hier jeudi pour le ramener à Bounia à rebrousser chemin. Entre-temps, l'état-major des FRDC en Ituri s'engage à poursuivre des négociations avec ce mouvement armé. Sadala Chabani.
C'est depuis le mercredi dernier que le colonel Cobra Matata, invité par l'état-major des FRDC, était entendu à Bounia pour rencontrer la délégation gouvernementale. Il n'a pas été au rendez-vous, même hier jeudi, à la cérémonie du lancement officiel de la phase 3 du DDR. Après la cérémonie, le colonel Peter Karim et Mathieu Goudjolo, respectivement anciens leaders de FNI et de MRC, ont été chargés d'aller le chercher à Aveba, village situé à une dizaine de kilomètres de son quartier général à Chiyi. Ces deux anciens chefs de guerre déclarent qui se sont arrêtés en route suite à un message leur envoyé par le leader de FRPI. Dans ce message, le leader de FRPI leur interdisait de poursuivre leur voyage car ces combattants seraient en état d'alerte. Le colonel Mathieu Goudjolo témoigne.
On sait qu'au venu dès le départ, quand on quittait, il était formé et on devait les rencontrer à Vébanfort. Malheureusement, arrivé à Kagaba, et il avait refusé de nous recevoir. C'est pour cette raison qu'on a repoussé le chemin. Il y avait même un risque pour qu'on puisse tomber dans une embuscade. Selon moi, ce que j'ai compris, c'est comme s'il a un agenda caché, puisqu'on était même avec son officier de liaison dans la délégation que j'avais conduite.
Contacté ce matin, le commandant ad intérim de la zone opérationnelle de FRDC à Ituri indique qu'il est saisi de la situation. Le colonel Moulimbi Lufungula réitère sa disposition à poursuivre des négociations avec le leader des FRPI, et comme l'avait instruit la vice-ministre de la Défense. Bounia, Sadala Chabani, Radio Okapi.
Toujours en province orientale, le parc de Maïko à Opiengé, localité à plus de 300 km à l'est de Kisangani, n'est plus géré par l'Institut congolais de la conservation de la nature depuis bientôt une année. Ceci fait suite au départ du conservateur et des gardes du parc au lendemain du conflit qui avait opposé des éléments FRDC aux Maïmaï de la contrée avant le mois de mai de l'année dernière. Affecté à Opiengé en février dernier, en remplacement de l'ancien conservateur, le nouveau responsable du parc de Maïko n'est toujours pas entré en fonction. Émile Emmanuel Ngwe affirme être buté à un certain nombre de difficultés, notamment les recommandations des autochtones de la région. On l'écoute au micro d'Anselme Masson.
Ils ont demandé qu'il y ait plaidoyer auprès du gouvernement et partenaires pour l'installation de la police nationale intégrée qui ont suivi une formation et justice militaire dans tous les secteurs de Bafouassine. Recrutement et formation des nouveaux éco-gardes, des gardes autochtones, ça sera fait par l'ICSN. Leur souci est qu'ils veulent qu'ils fassent aussi la gestion avec, donc de gérer les parcs. Ensuite, ils ont demandé qu'on puisse faire la cartographie et zonage participatif du parc par les experts internationaux, l'ICSN et la population locale. L'autre point, c'est quoi? Révision de notre loi, la loi 69-041 du 22 août 1969 relative à la conservation de la nature. La loi interdit aux gens même de traverser les parcs, de tuer les animaux totalement protégés, partiellement protégés. Les derniers points, ils ont demandé aussi l'opération DDR. Pour qu'on puisse évacuer les forces non conventionnelles qui sont dans la Maïko.
Une nouvelle vague d'expulsés congolais de l'Angola est arrivée mercredi dernier dans la localité de Kamako, c'est à 400 km au sud-ouest de Kananga. Les 26 expulsés congolais ont été remis au service de la Direction générale des migrations par la sécurité angolaise. Certains des expulsés affirment que plus de 2000 autres Congolais sont arrêtés et attendent d'être expulsés du village de Maloudji de l'autre côté de la frontière angolaise. André Kambala.
L'information est relayée par l'ONG des droits de l'homme de Kamako, la PGDO. Elle est confirmée par le responsable de la Direction générale des migrations de Kamako qui précise que parmi les expulsés, il y a deux Ivoiriens. La DGM va transférer ces derniers à Kinshasa. Les expulsés congolais sont actuellement admis à la polyclinique de Kamako. Les médecins traitants Pierre Bidimpata parlent de patients qui présentent beaucoup de petites plaies sur les corps et de plusieurs signes de torture. Une expulsée jeune au téléphone sur le lit de l'hôpital témoigne des sévices subis et confirme que d'autres Congolais étrangers vont être expulsés.
Nous avons été arrêtés à Mukapa. On nous a acheminés à Dundu. De Dundu, nous avons été conduits ici. Nous avons passé 7 jours au cachot et copieusement tabassés. Nous, les femmes, nous avons connu des situations très difficiles, ce qui provoque même des maladies. Plus de 2000 Congolais sont restés au village Mouloudji. La police angolaise menace d'incendier leur maison, de les torturer sérieusement avant de les reconduire à la frontière.
Du côté de l'Angola, le consul de l'ambassade angolaise à Kinshasa que Radio Okapi a contacté dit ne pas être au courant de cette nouvelle vague d'expulsés, encore moins de l'arrestation d'autres Congolais en Angola. Entre-temps, à Kamako, l'inquiétude monte sur la perspective de cette nouvelle vague d'expulsés et ses ONG se demandent comment les réinsérer dans des familles d'accueil. Kananga, André Kambala, Radio Okapi.
Poursuite ce vendredi de la démolition des maisons à Bandal sous les câbles haute tension et aussi Tembe na Tembe dans la commune de Lingwala. Le ministre de l'Urbanisme et Habitat déclare avoir suspendu son secrétaire général. Il serait impliqué dans la délivrance de fausses autorisations de bâtir. Il faut dire que ce n'est pas la première fois que l'on détruise des constructions anarchiques dans la ville de Kinshasa. Qui donc doit accorder l'autorisation de bâtir et quelles sont les mesures prises par le ministère face à ce problème? Réponse de Laurent Simon Ikenge, ministre de l'Urbanisme Urbanisme et Habitat au micro de Babel Pongo.
En ce qui concerne les autorisations de bâtir, la loi dispose qu'il n'y a que le ministre qui peut donner les autorisations pour la construction à étage ou le gouverneur des provinces ou le gouverneur de la ville pour les maisons basses. Ces gens-là ont des fausses autorisations de bâtir. Le ministre de l'Urbanisme et Habitat n'a pas signé, ni mon prédécesseur, ni moi-même. J'ai institué une commission d'enquête pour savoir qui a donné les papiers, qu'il s'agissait du secrétaire général. Je l'ai suspendu et mis à la disposition de la fonction publique. Tout celui qui aura trempé dans ce dossier aura la sanction de l'autorité. Vous savez, les dépenses sont énormes pour ceux qui ont construit là.
Le coordonnateur de la brigade démolition de l'hôtel de Gilles affirme que demain, les bulldozers s'attaqueront aux constructions voisines des bâtiments de l'IM, l'ancien institut médical en face de la cathédrale du centenaire protestant. Nous le disions en titre, plus de 7000 enfants vont naître infectés du VIH-Sida cette année au Kassai oriental. Ces chiffres ont été donnés ce jeudi par la coordination provinciale du programme national de lutte contre le Sida, PNLS. C'était au sortir d'une rencontre avec des partenaires œuvrant pour la prévention de la transmission VIH-mère à l'enfant, PTME. Le coordonnateur du PNLS déplore que des femmes enceintes dépistées séropositives ne reviennent plus auprès de leur structure médicale pour suivre des soins. Mais alors, comment faire pour réduire cette contamination de la mère à l'enfant? Réponse du coordonnateur du PNLS, Léonard Yabadile, au micro de Niki Mputu.
La première stratégie, c'est en fait la prévention primaire. Cette prévention primaire consiste à élever le jeune homme et la jeune fille dans un environnement sans VIH. Mais il peut se faire qu'une fille arrive à attraper le VIH. À ce moment-là, on va lui donner des conseils appropriés pour qu'elle évite toute grossesse non désirée. C'est ce qu'on appelle la prévention secondaire. Si malgré tout ça, cette jeune fille-là déjà infectée devient enceinte, à ce moment-là, nous allons faire la PTME proprement dite. Et cette PTME proprement dite ne peut se faire que dans les maternités ayant des gens qui ont été formés et qui ont des intrants pour arriver à réduire le risque à l'enfant. Mais quand vous regardez de façon beaucoup plus concrète, dans la province, nous avons 26 maternités uniquement. Sur 1101 maternités, nous sommes autour de 2% seulement de couverture dans la PTM. Dans le cadre de la prise en charge, on a encore beaucoup de difficultés là-dedans. Ça fait que la PTM n'a pas vraiment très bien fonctionné.
Pour leur contribution dans la lutte contre le VIH-Sida, 14 femmes ont reçu le prix Femme Actrice du Changement de l'association IUK, Young Women Christian Association. C'était hier à Nairobi, au Kenya, à l'occasion de l'ouverture du sommet international des femmes. Parmi ces femmes, une Congolaise, Madeleine Lubuyambui, âgée de 26 ans et lauréate dans la catégorie inégalité de genre. Cette dernière a impressionné les organisateurs par son esprit d'initiative et son âge. Écoutez sa réaction et les motivations de son engagement dans la lutte contre le sida. Elle est jointe par Jocelyne Moussaopone.
J'ai pris, je ne sais, le mot pour dire concrètement ce que c'est pour cette présence, mais je trouve que c'est un peu l'accomplissement des efforts de longue date, parce que je travaille toujours un peu clandestinement. Et aujourd'hui, vraiment, c'était une occasion pour moi de, que tout le monde sache au moins qu'en effet, il y a une jeune fille qui travaille aussi pour la pandémie ou la lutte contre le sida. Autour de moi, dans ma famille principalement, j'ai perdu des êtres très chers à cause de cette maladie. Et je me suis dit que dans notre société, la sexualité, c'est déjà un problème qu'on aborde peu en famille. Et si les jeunes trouvaient un cadre où ils pouvaient communiquer calmement avec les jeunes, ils pourront se retrouver.
Honor Katanga, le médecin chef de zone de santé de Kongolo, appelle à l'aide pour les victimes de la rage. La semaine dernière, une femme du quartier Kandolo est morte après avoir été mordue un mois plus tôt par un chien enragé. Par ailleurs, une dizaine d'autres victimes de morsures manquent d'assistance médicale. L'administrateur de territoire interdit la divagation des chiens et autres chats. Ces autorités se disent inquiètes du nombre des victimes de la rage. François-Xavier Mibé nous en dit plus.
Le nombre des victimes motive l'appel que lance le médecin chef des zones de santé. Un chien enragé a mordu 17 personnes avant d'être abattu par la population. Toutes ces victimes n'ont bénéficié jusque-là d'aucune intervention médicale. Une situation qui inquiète à haut niveau la zone de santé des Congolos, dépourvue de médicaments appropriés. le docteur Patrick Tchey.
C'est vraiment une urgence pour nous, comme savoir ces vaccins-là. Nous sommes en danger. Le chien a été mort, il a mordu d'autres chiens, c'est sûr. Demain après-demain, on peut se trouver une situation où peut-être ça sera trop tard pour qu'on fasse quelque chose.
L'administrateur de territoire Nikes Nunakumi arrête pour sa part une série de mesures pour protéger les habitants. Désormais, toute divagation des chiens et chats n'est pas tolérée sur la voie publique et à travers tout le territoire des Congolais. Le transfert et la circulation de ces bêtes sont aussi interdits. À ce sujet, le service vétérinaire est instruit pour attester la vaccination de tout animal transféré. À cet effet, la police a reçu même l'ordre d'abattre tout animal en divagation sur les places publiques. Des Congolais, François-Xavier Mibé, Radio Okapi.
Le gouvernement du Congo-Brazzaville a décidé d'organiser les 8 et 15 juillet des élections législatives partielles dans 19 circonscriptions du pays où le scrutin du premier tour n'a pu se dérouler normalement le 24 juin dernier. Ce premier tour de rattrapage se déroulera dans les circonscriptions des départements du Niari, des plateaux de la Cuvette et de la Cuvette Ouest. Les électeurs concernés du département du Kouilou ne révoteront eux que le 15 juillet, tout comme ceux de Brazzaville et de la capitale économique. Pointe-Noire, ces deux agglomérations accueillant du 7 au 14 juillet la 6e édition du Festival panafricain de musique FESPAM.